les jardinières.
Avant-dernière des jardinières avant les vacances et pour vous accompagner ce matin, une équipe de choc, chaud comme les marrons, c'est Steve, bonjour.
Bonjour.
Et brillante comme une étoile de Noël, c'est Cathieu Racine, bonjour Cathieu.
Bonjour.
Cathieu Racine, vous êtes jardinière à Delémont et guide de randonnée nature. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Rendez-vous avec soi-même. Merci d'être avec nous ce matin.
Installez-vous confortablement, c'est donc les jardinières et on répond aussi à vos questions jardinage jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
La neige est arrivée, les températures passent au-dessous du zéro, plus d'août, nous sommes en décembre. Cathieu, est-ce que malgré le froid et le gel, le jardinier courageux peut faire quelques tâches en extérieur ?
Oh oui, il y a toujours quelque chose à faire dans nos jardins, même en hiver. Bon, là, il y a la neige qui nous embête un tout petit peu. On peut faire des petites tailles de rafraîchissement sur les rosiers, par exemple. On pourrait aussi, si on a envie, parce qu'on n'a pas non plus un mètre de neige, on pourrait planter les arbres et arbustes. Ça, c'est possible, c'est une bonne saison pour le faire maintenant. Et puis s'il n'y avait pas de neige, mais bon, ce n'est pas le cas, on pourrait finir de ramasser ces feuilles mortes et puis faire un tas au fond du jardin pour que les hérissons puissent s'y cacher pour l'hiver, puissent se mettre au chaud ou alors le mettre sur le tas du compost pour faire un bon humus pour le printemps.
Merci Cathieu. Dans la suite des jardinières, vous allez nous parler aujourd'hui plus spécifiquement des broméliacées. Encore un nom barbare, mais qui cache de très belles plantes. Et puis, vous allez également répondre aux questions de nos auditrices et auditeurs.
Et pour poser vos questions, toujours trois possibilités, soit par téléphone au 0900 170 20 20 pour 36 centimes la minute, soit en remplissant le formulaire sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières ou alors par SMS en tapant jardin, un espace suivi de votre question et de votre petit nom. Vous nous l'envoyez au 939.
Place à la musique avant le bal des couleurs des broméliacées.
7h, 8h, les jardinières.
L'hiver s'empare de nos régions, mais ce matin nous allons mettre de la couleur dans vos vies. Direction les tropiques en compagnie de Cathieu Racine. Cathieu, vous allez nous parler des broméliacées. Alors pour commencer, pourquoi avoir choisi cette plante particulièrement à nous présenter ce matin ?
Alors c'est une plante que j'aime bien parce qu'elle est très très colorée pour l'hiver, donc c'est une plante d'intérieur. Hein. Et puis on la trouve beaucoup sur les étals des jardineries ou des grands magasins qui ont une partie jardinage. Et souvent les gens ne l'achètent pas parce qu'ils ont un peu peur de ne pas savoir comment s'en occuper. Pourtant, c'est une plante qui est très très facile d'entretien. Elle a une petite histoire qui est intéressante, on en parlera après. Elle a une floraison hivernale. En plus, c'est une très longue floraison. Donc, si on l'achète maintenant, en général, elle fleurit jusqu'au mois de février, mars, sans problème, avec un entretien qui est vraiment léger pour les gens qui n'ont pas trop la main verte. Ça remplace un peu la fameuse orchidée dont on a déjà parlé. Donc, ça passe un petit peu dans l'originalité. Et puis, en plus, c'est une plante qui est facilement multiple. Enfin, qui se multiplie facilement. Je ne sais pas comment on dit. Ce mot-là n'existe pas, je pense, je m'excuse. Donc, elle est drôlement intéressante comme plante.
Alors, on ne trouve pas de broméliacées sauvages dans nos contrées, surtout sous la neige actuellement. C'est des plantes qui viennent de pays humides. Alors, comment elles sont arrivées jusqu'à nous ?
Alors vraiment, comment, je n'en sais rien du tout, mais c'est vrai que c'est une plante qui vient des régions tropicales d'Amérique. Christophe Colomb en avait ramené une qui est tout simplement l'ananas. L'ananas, c'est une broméliacée. Donc on retrouve, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une broméliacée, on retrouve les feuilles de l'ananas, en fait. C'est une broméliacée. C'est la feuille de la broméliacée. Et puis, il y a aussi le botaniste Olof Bromelius qui en avait ramené beaucoup, 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 d'où le nom de broméliacée. C'est donc grâce à lui qu'on a eu ce nom-là. Et puis, justement, pour la petite histoire, dans leur pays, il y a beaucoup, beaucoup de broméliacées. C'est une plante vraiment qui est très utile pour l'écosystème. Par exemple, les petites grenouilles qu'on voit dans les eaux, ces petites grenouilles très colorées, vont pondre dans les feuilles de ces broméliacées où il y a de l'eau toujours stagnante dedans, vu qu'il pleut beaucoup dans les régions tropicales. Et les têtards se développent dans ces feuilles et leurs excréments, en fait, nourrissent la plante. Et ensuite, la plante prend toute cette eau qui a des organismes dedans et se nourrit de ça. Et les grenouilles, après, quittent cette plante pour aller vivre leur vie. Donc, c'est vraiment une plante qui est très sympa. Elle est aussi pollinisée par les colibris, par les chauves-souris. Donc, c'est vraiment une plante qui attire beaucoup de petits animaux pour faire vivre l'écosystème.
Et encore une fois, rien ne se perd, tout se récupère. On appelle aussi les broméliacées filles de l'air. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Oui, la broméliacée, il y a deux sortes en fait. Il y a les broméliacées qui ont des racines, mais il faut savoir qu'elles ont des racines qui sont très 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 courtes. Et il y a aussi des broméliacées qui n'ont pas de racines. Si vous avez déjà fait attention, chez les fleuristes, parfois on voit des espèces de plantes un petit peu comme ça. On dirait qu'elles sont sèches, puis elles sont collées sur un morceau de bois ou sur une pierre. En fait, ça, c'est aussi une broméliacée qui s'appelle Tillandsia. Et puis, en fait, cette plante est une plante épiphyte, c'est-à-dire qu'elle se sert d'une autre plante pour vivre, en fait, elle colonise une autre plante et elle n'a pas de racines. Donc, elle va se poser sur une plante, elle sera plutôt en l'air. Et en fait, avec ses feuilles qui ont des toutes petites écailles, elle va réussir à capter l'humidité de l'air pour se nourrir, tous les oligo-éléments, tout ceci par l'air. Et en fait, elle n'a absolument pas besoin du sol pour évoluer. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la fille de l'air.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure l'ananas comme référence, mais bon, on n'a pas forcément tous la place d'élever un ananas en pot dans notre salon. Il y a plein d'autres variétés qui se prêtent très bien, justement, à la culture en intérieur. Vous avez quelques exemples, peut-être ?
Oui, oui. Alors, on a parlé du Tillandsia, on vient d'en parler maintenant. Donc, je vous donne les plus courants qu'on trouvera chez nous, hein, parce qu'il y en a...
Mais pour le Tillandsia, il faut un arbre.
Non, alors pas forcément. On peut simplement prendre un bout d'écorce et puis l'attacher avec un peu de fil de fer, ne jamais coller, hein, parce que la colle est un élément chimique, donc on ne va pas mettre du chimique là au milieu. Simplement un fil de fer avec le Tillandsia et on l'attachera sur un support, quel qu'il soit, et puis on va suspendre ça, parce qu'elle a vraiment besoin d'être la tête en bas. Donc par exemple, ce Tillandsia, qu'on appelle aussi ben justement fille de l'air ou barbe de vieillard. Et puis le Guzmania, alors là, c'est celui qu'on trouve le plus couramment sur nos étals. C'est vraiment comme une feuille d'ananas, mais très colorée. Il peut y en avoir des rouges, il peut y en avoir des jaunes, il peut y en avoir des roses. Donc celui-là, il est vraiment le plus courant, puis c'est celui qui est le plus facile d'avoir à la maison pour l'entretien. Et puis sinon, il y a aussi l'Echmea. Donc celui-là, on l'appelle aussi le vase d'argent, tout simplement, parce qu'il a aussi ses feuilles qui remontent comme ça, qui forment un peu comme un vase. Et puis ses feuilles sont très argentées sur le dessous. Donc il est magnifique, mais celui-là, il est beaucoup plus grand. Donc il aura besoin d'aussi une beaucoup plus grande place.
On dirait presque des fausses plantes, ces broméliacées.
Vraiment, oui.
Est-ce qu'elles sont faciles à entretenir dans l'ensemble, ces fleurs-là ?
Oui, oui, elles sont faciles à entretenir. Il faut simplement avoir des pièces qui sont quand même très bien tempérées, vu que ce sont des plantes des forêts tropicales. Donc, il faut compter entre 18 et 25 degrés minimum. Le 18, c'est vraiment le minimum du minimum. Pas de courant d'air en hiver, bien entendu. Une pièce qui est très bien éclairée, mais pas de soleil direct. Donc, c'est une plante qu'on ne mettra, par exemple, pas dans une véranda. Et puis, quand on l'arrose, il faut bien la laisser sécher entre deux arrosages. Ça, c'est très, très important.
Merci beaucoup, Katiou. Pardon. Dans quelques instants, vous allez nous expliquer comment entretenir ces broméliacées. Ce sera juste après une pause musicale.
7h, 8h. Les jardinières.
Ce matin, les jardinières restent au chaud et s'occupent de vos plantes d'intérieur et plus précisément des broméliacées. En première partie, Katiou, vous nous avez parlé de l'origine de ces plantes. On en voit dans les jardineries. Elles sont très belles et colorées. Dites-nous, Katiou, quand on ramène une broméliacée chez soi, est-ce qu'il faut de suite la rempoter ?
Non, non, vous pouvez aller l'acheter ou vous la faire offrir, c'est encore mieux. Et puis ensuite, la faire trôner dans votre salon tranquillement. Elle n'a absolument pas besoin d'être empotée, étant donné qu'on en a parlé avant, vu que c'est des plantes qui n'ont pas forcément besoin d'un substrat. Et puis, les plantes qui sont en terre, qu'on a dans nos jardineries, elles ont besoin de substrat, mais vu qu'elles ont des très petites racines, ce qu'on leur procure à l'achat est vraiment suffisant. Par contre, une fois qu'elle aura fini de fleurir, cette plante va faire probablement, si elle se sent bien chez vous, des petits. Elle va faire des petites plantes à côté de la plante mère qui va normalement mourir. C'est normal, donc votre broméliacée va complètement sécher la fleur et la plante va mourir complètement et va venir des petits tout autour. Et puis c'est là que le rempotage entrera en ligne. Mais ça sera autour, si on l'achète maintenant, disons, ça sera autour du mois de mars-avril. Donc là, on va rempoter ces petites plantes avec de l'humus qu'on va composer de la façon suivante. On va mettre un tiers de tourbe, un tiers de terre de bruyère et un tiers d'écorce. Donc là, on se rapproche de nouveau beaucoup de l'orchidée qui a le même type de substrat. Et puis... quand la plante mourra, donc ces petits rejets, on va les couper tout près du pied mère, donc le plus propre possible, avec un couteau qui coupe très bien. Et on va simplement les remettre dans des tout petits pots, qu'est-ce que je vais vous dire, de 7-8 cm de diamètre, simplement les enfoncer dans ce terreau qu'on aura préparé. Et puis, on va couvrir ce petit pot avec un petit bout de plastique pour faire un petit effet de serre, comme ça. Du coup, dans l'intérieur de ce petit pot, il y aura une espèce de condition climatique qui sera similaire à ce qu'il y a dans leur pays d'origine. Donc, quelque chose de très humide, assez chaud. Et puis, votre petit pied va reprendre, va refaire des racines. Et puis, dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui commence de bouger, une petite feuille qui se met en place ou... Enfin voilà, si on observe ces plantes, on voit quand elles reprennent, on peut enlever ce plastique, elles vont évoluer, puis là après on peut les rempoter toujours un peu plus grand pour avoir finalement une belle plante prête à refaire des fleurs. Donc c'est vraiment une plante qui est super sympa parce que même les personnes qui sont novices dans ce domaine peuvent sans problème faire ce genre de multiplication.
On va continuer de parler bromeliacées dans quelques minutes. On marque une petite pause pour reprendre ensuite le jardinage.
Les jardinières.
Steve, est-ce que vous êtes là ?
Je crois que je suis là.
Alors c'est à vous.
Alors le samedi, on se réveille en compagnie des jardinières. Et ce matin, c'est Cathieu Racine, jardinière à Delémont, guide de randonnée nature, qu'il faut suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Rendez-vous avec soi-même, et qui est notre invité jusqu'à 8h.
Et Cathieu va prendre le temps de répondre à vos questions jardinage que vous pouvez lui poser en direct et par téléphone au 0900 70 20 20, par SMS en tapant jardin en en-tête de votre message suivi de votre question et bien sûr de votre nom. Il suffit de nous envoyer ce message au 939 ou alors en remplissant le formulaire sur notre site sous l'onglet émission question aux jardinières avec la possibilité de joindre une photo.
Alors ça peut parler de bromeliacées, hein, vos questions, mais aussi de toute autre chose en ce qui concerne le jardinage. Cathieu, en première partie, vous nous avez parlé des bromeliacées, donc c'est notre thème du jour, ces plantes incroyables qui viennent des pays humides et chauds, sorte d'orchidées pour les novices en termes de gestion de la plante et pour s'en occuper. On a parlé d'humidité, de chaleur, est-ce que les entreposer dans sa salle de bain est utile ?
Pourquoi pas ? On pourrait tout à fait. Hein. Si tout le monde se douche comme moi à 45 degrés et puis fait, pardon pour ceux qui économisent l'énergie, hein, mais moi j'économise pas sous la douche, qui font 15 minutes, ça produit une vapeur incroyable et puis une vapeur d'eau incroyable. Et puis la broméliacée serait très heureuse de profiter de cela. C'est vraiment une excellente idée. En plus, c'est une plante qui prend, comme je vous ai dit avant, il y en a plusieurs grandeurs, il y en a des toutes petites. On pourrait suspendre ça quelque part. Ça serait vraiment sympa de pouvoir décorer... Une salle de bain avec soit quelque chose qui est pendu après la tringle de la douche, ou alors une belle broméliacée colorée dans un coin, ça serait vraiment sympa. Et puis, ce qu'il faut juste ne pas oublier, c'est qu'elle a besoin de beaucoup de lumière. Donc, si vous avez une salle de bain qui n'a pas de fenêtre, donc ça, c'est pas possible. Mais dans le cas où vous avez une salle de bain avec une jolie fenêtre et puis une petite place, c'est une excellente idée de mettre cette plante-là.
Et puis, on peut aussi l'entreposer ailleurs que dans la salle de bain, mais il faut faire attention avec le chauffage au sol, parce que ces plantes-là, elles n'aiment pas trop.
Non, elles n'aiment pas du tout. Alors, c'est vrai qu'on peut l'entreposer, l'exposer, je dirais, à peu près partout. Donc, elle trouvera sa place à la cuisine, au salon, dans une chambre à coucher, c'est pas du tout un souci. Le chauffage au sol est un mauvais compagnon de toutes les plantes d'intérieur. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention. On doit... Je vous explique pourquoi. En fait, quand on arrose une plante, souvent on achète des plantes qui ont des pots de 30 cm de diamètre par 50 de haut environ, si on a une jolie plante dans son salon. Les plantes qu'on achète sont rempotées de manière le meilleur marché possible. Donc en fait, elles auront du substrat, elles seront plantées dedans, basta. Et puis en fait, quand on les aura à la maison, on les met au sol, on les arrose. Donc l'eau, qu'est-ce qui se passe ? Elle va descendre. Le chauffage va chauffer le bas du pot. L'eau ne va pas s'évaporer du tout parce qu'en général, ce sont des pots en plastique. Les racines vont baigner dans quelque chose de très boueux. On ne se rendra même pas compte pourquoi, parce que le dessus de la plante aura séché. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre de l'eau parce qu'on se dira, oh là là, cette terre, elle est sèche, il faut que je mette de l'eau. Donc en fait, ça va baigner dans le fond. Et avec la chaleur du sol, ça va provoquer soit de la pourriture. Si on met, on prend une feuille de salade, on la met dans la terre, et puis on chauffe la terre, puis on met de l'eau, on imagine ce qui se passe, et bien il va se passer la même chose avec les racines. Donc notre plante va dépérir lentement, et puis on va pas comprendre pourquoi, on va se dire, ouais, elle a soif, et on va remettre, et c'est fini. Donc il y a deux choses à faire. Quand on a une plante, pas le cas de la broméliacée, parce qu'en général, on la pose pas par terre, elle est trop petite, mais les autres plantes, on va les rempoter, faire un bon drainage dans le fond, afin que l'eau ne stagne pas dans les racines, ou alors on va simplement acheter un petit support à roulettes qui va isoler cette plante du sol et puis qui va mettre une distance entre ce chauffage et les racines de notre plante et puis ça va permettre de bien ventiler tout ça et puis d'éviter cette pourriture. Mais attention, n'arrosez pas trop.
Alors justement, on a des intérieurs qui sont relativement secs et en termes d'arrosage, comment ça se passe ?
Pour la broméliacée, oui. Alors, la broméliacée, en fait, si on l'imagine, pour ceux qui savent ce que c'est, sinon les autres, vous pouvez aller voir un petit coup sur Internet, ça vaut la peine.
On va remettre ça en ligne, on va vous mettre des photos aussi.
Alors, comme ça, ils pourront aller voir ce que c'est. En fait, si on imagine les feuilles de l'ananas, voilà, ça c'est la broméliacée, elle est dans un pot. Donc, il y aura deux ou trois façons de l'arroser. On pourra soit l'arroser vraiment sur la terre, comme une autre plante. Donc là, il faudra juste faire attention justement que l'eau ne stagne pas dans le fond de la plante. Et puis, il faut vraiment que la terre sèche complètement entre deux arrosages. Ça, c'est une façon d'arroser. La deuxième façon d'arroser, c'est de mettre de l'eau dans les feuilles. En fait, vu que ce sont des petites rosettes, on a parlé de vases d'argent avant, hein, l'eau stagne dans ces feuilles. Puis en fait, la plante, elle prend ce dont elle a besoin. Il faut juste faire attention, de temps en temps, quand même mettre un petit peu d'eau sur la terre. Mais vraiment, si on arrose par les feuilles, sur la terre, il faut y aller avec modération. Et puis la troisième façon de l'arroser, c'est de la vaporiser tous les jours. Donc là, on ira à une place où on ne mouille pas tout et puis on la vaporisera généreusement, vu que dans la nature, en fait, elle a les trois façons. Dans la forêt tropicale, elle recevra la pluie. Donc elle aura la terre qui sera arrosée pour celles qui sont en terre, de l'eau dans les rosettes. Et puis en plus, dans les forêts tropicales, il y aura l'humidité ambiante qui s'occupera de la vaporisation. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier aussi avec ces plantes-là, c'est de leur mettre de temps en temps de l'engrais. Donc là, on mettra l'engrais en arrosage. Et puis on revient de nouveau à l'orchidée, qui a vraiment le même système que ces broméliacées. On mettra tout simplement de l'engrais orchidée une fois par mois.
Du coup, elles se porteront bien, mais il peut y avoir peut-être des maladies qui pourraient toucher ces broméliacées. À quoi faut-il faire attention ou alors rester attentif ?
Il faut faire attention justement à l'histoire de bien laisser sécher entre deux arrosages. Ça, c'est vraiment important parce que les maladies qui peuvent se développer ou les parasites qui peuvent se développer sur nos plantes d'intérieur sont souvent dues à un mauvais arrosage, un mauvais substrat qui est épuisé. Ou alors, peut-être l'aération qui n'est pas suffisante, trop d'humidité parce qu'il y a trop de plantes qui sont les unes contre les autres. Ça peut arriver. Donc on trouvera les deux qu'on trouvera le plus couramment dans nos maisons, c'est plutôt à la fin de l'hiver. On entend souvent les gens qui viennent dire « Ah, mais il commence à y avoir des bestioles sur mes plantes ». C'est les cochenilles. Donc les cochenilles, ce sont des toutes petites pellicules blanches qu'on va trouver sur les plantes. En fait, elles se nourrissent de la sève. Et quand on s'en aperçoit, en général, c'est déjà bien tard parce qu'on s'aperçoit que nos plantes viennent luisantes comme ça. Et en fait, c'est la sève. Quand elle pique, la sève colle après sur les feuilles. Donc, on a vraiment ces plantes qui viennent très collantes comme ça. Donc ça, il faut faire attention. C'est l'air qui est sec et puis trop de chauffage. Là, on peut traiter sans problème avec du savon noir. Le savon noir est un petit peu miraculeux dans le traitement des plantes d'intérieur. Donc là, on fera une dissolution avec de l'eau et du savon noir. Et puis, on va vaporiser notre plante avec ce savon noir. Et on va toujours isoler les plantes. Dès qu'on a une plante qui est atteinte, on va l'isoler. Et puis la maladie qui est assez fréquente, c'est l'oïdium. Donc là, on le repère aussi parce que c'est une espèce de poudre blanche qu'on voit sur les plantes. Donc ça, il faut vraiment l'enlever mécaniquement. Donc il faut couper les feuilles, les mettre à la poubelle, faire attention que ça n'aille pas sur d'autres plantes. Et puis là, encore une fois, on va faire un mélange avec du savon noir et du bicarbonate de soude. Et puis on va vaporiser ça pour traiter la plante.
Merci beaucoup, Katiou. On l'a compris, donc c'est bromeliacé, c'est un peu la version débutante des jardiniers et jardinières vis-à-vis des orchidées, qui peuvent être un petit peu plus demandeuses, qui font un peu les divas parfois. et du coup, bah, c'est aussi un bon cadeau à faire, peut-être pendant les fêtes, plutôt que d'offrir justement ces orchidées qui sont parfois un peu compliquées. Pourquoi pas proposer des bromeliacées?
Oui, ça change. Et puis, c'est vrai que c'est... On arrive souvent avec notre orchidée. L'orchidée, elle est spectaculaire. Hein. Elle a toujours ses boutons qui sont très, très ouverts. Et puis, il y a ces multitudes de couleurs. Et puis, souvent, elle nous attire l'œil, alors que les broméliacées, ils sont pas loin, mais on les voit même pas. Donc, quand vous allez dans les... N'hésitez pas de prendre des plantes que vous connaissez pas, parce que, finalement, ce qu'on a dans nos étals chez nous, ce ne sont pas des plantes très compliquées. Et puis, il est aussi utile d'aller un petit peu se renseigner sur Internet, parce que, finalement, toutes les plantes qu'on achète, si on arrive à leur reproduire presque les conditions qu'elles ont dans leur pays, finalement, elles vont se plaire chez nous. Donc, c'est pas très compliqué. Il faut juste savoir aller se renseigner pour voir, qu'est-ce qu'elles ont dans leur pays d'origine et puis reproduire ça. Et puis, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment une plante qui est joliment colorée. Et puis, sur la table à Noël, ça peut être sympa.
Merci beaucoup, Cathy. On a donc parlé des broméliacées. Pour les gens qui nous rejoignent maintenant et qui sont intrigués, vous pourrez réécouter tous les bons conseils de Cathy en podcast sur notre site. Ça sera en cours de matinée. Et puis, dans la suite des jardinières, on va prendre le temps de répondre à vos questions jardinage. Vous pouvez nous appeler, par exemple, maintenant au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute.
7h, 8h, les jardinières.
7h48 chez les jardinières et partout ailleurs, enfin, pour ceux qui ont le même fuseau horaire que nous. Il est temps de répondre à vos questions jardinage, des questions qu'on attend toujours par téléphone au 09 101 70 20 20 ou alors par SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question, votre petit nom, vous nous l'envoyez au 939 ou alors en remplissant le formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières. Et Steve, on a reçu quelques questions déjà.
Exactement, on a Olivier Desbois qui nous écrit, nous dit au bois, 1050 mètres d'altitude, far west du Jura, c'est lui qui l'a dit. J'ai cultivé avec soin de magnifiques géraniums qu'il m'a fallu à regret rentrer et tailler. Quelle est la meilleure façon de créer des boutures? Merci beaucoup pour votre réponse et votre émission.
Alors, les boutures, le problème, c'est qu'il les a déjà taillées. Et puis, en fait, les boutures se font justement sur les pousses qui sont encore existantes. Donc, je ne sais pas comment il les a taillées. Peut-être il a taillé très court ou peut-être il a laissé un peu long. Mais pour la petite histoire, normalement, avant de les tailler ou pendant la taille, on va prélever des tiges d'environ 10 à 20 cm. On va enlever les boutons floraux, s'il y en a encore, enlever les feuilles du bas et on va simplement mettre ces tiges dans un substrat adapté au semis, donc semis et rempotage. On va enterrer environ de 5 à 7 cm. On va bien tasser et puis on va laisser ça tranquillement dans un endroit qui est tempéré. Surveiller l'arrosage, que ça ne soit pas trop humide. Pas trop mouillé, pardon, que ça reste légèrement humide. Et puis, normalement, ces boutures reprennent très facilement. Donc, le géranium est vraiment très facile à faire. Mais il faut prendre des pousses qui sont bien robustes, qui n'ont pas de taches sur les feuilles, qui sont vraiment exemptes de maladies ou quoi que ce soit, rien d'abîmé. Et puis là, c'est très facile de reproduire les boutures.
Merci, Cathy. On espère qu'Olivier aura à nouveau de magnifiques géraniums. On a reçu une seconde question. On parlait des broméliacées, on va parler des orchidées. C'est Marc de Seignelégier qui dit qu'il a aperçu que ces orchidées étaient remplies de cochenilles en quelques jours. Il a rincé les feuilles sous l'eau courante. Il se demande qu'est-ce qu'il peut faire de plus et vous remercie d'avance.
Alors, en général, quand les orchidées ont des cochenilles, c'est qu'elles ont une faiblesse. C'est un petit peu comme chez nous, si on attrape la grippe, c'est soit qu'on est un peu fatigué ou voilà. Donc, maintenant, il a fait ce qui était à faire, donc les rincer sous l'eau, enlever vraiment ses cochenilles avec un chiffon doux, si on peut. Les feuilles des orchidées étant très grandes, c'est assez facile. Maintenant, ma question, c'est est-ce que cette orchidée est en fleur ou pas? Si elle est en fleur, il faut la laisser comme ça et puis surveiller que ces cochenilles ne reviennent pas. Si elles reviennent, il faut de nouveau nettoyer et puis passer, comme on a dit avant, le savon noir. Si elle n'est pas en fleur, je pense que cette orchidée manque peut-être un petit peu de peps. Donc, on va la rempoter, ça serait l'idéal, lui donner un nouveau substrat, lui mettre de l'engrais. Pour lui donner vraiment un peu de force, un peu de courage, un peu de vitamine, et puis de nouveau bien la baigner dans des eaux qui sont très tièdes. Vraiment lui redonner maintenant de l'énergie pour qu'elle puisse se requinquer, refaire des fleurs. Et puis en général, quand elles sont vraiment en pleine forme, il n'y a plus de problème de maladie ou de cochenille. Parce que ça arrive vraiment toujours sur des plantes qui sont en manque ou qui ont une carence, en fait, sur les plus faibles finalement.
Vous avez parlé de savon noir aussi tout à l'heure pour les bromeliacées. C'est aussi quelque chose qui fonctionne bien pour les orchidées.
Oui, le savon noir, c'est très très utile pour se débarrasser en fait des parasites, des ravageurs de façon naturelle. Et puis en plus, il faut bien faire attention de prendre du savon noir pur, hein, parce que dans le commerce, on trouve du savon noir, si vous lisez l'étiquette, qui est encore plein de chimie dedans, donc vous oubliez ce genre de choses. Mais si vous allez en droguerie, vous demandez de la pâte de savon noir ou en pharmacie, et puis là, après on diluera, une demi-cuillère à café dans un litre d'eau. On peut mettre un tout petit peu de bicarbonate de soude, faire un mélange et puis vaporiser nos plantes avec ça. Et puis vraiment, ça les aide à se débarrasser de ces parasites de façon naturelle. Faites juste attention de ne pas faire ça au milieu du salon parce que ça, c'est assez volatile et puis ça se pose un peu n'importe où, donc dans la salle de bain. Mais c'est un très bon produit puis on l'utilise aussi beaucoup dans le jardin potager en été.
Merci beaucoup Katiou. Une petite pause musicale et on se retrouve pour clore les jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Il est déjà presque l'heure de se dire au revoir, mais avant de laisser filer Katiou, peut-être à partir à la conquête de ses derniers cadeaux de Noël, Katiou, on va anticiper et puis on va un petit peu préparer 2023. On peut déjà s'y mettre pour les semis, par exemple.
Oui, on peut déjà s'y mettre. Alors, pas vraiment physiquement, on va pas semer aujourd'hui. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se procurer un bon outil. C'est le calendrier du jardinage lunaire 2023. C'est un livre qui est très intéressant pour les amateurs ou les jardiniers confirmés. Et puis, on va pouvoir imaginer, se dire, ben voilà, j'ai tant de mètres carrés à disposition. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre? Quand c'est que je dois préparer mes semis? Parce qu'il y a des semis qui se préparent déjà au mois de janvier pour certaines choses. Donc on peut déjà imaginer un peu, faire un petit plan dans sa tête de ce qu'on va mettre en place pour 2023 et commencer de faire des plans. Et puis, dès janvier, acheter le matériel qu'il faut pour se lancer dans nos semis.
Des plans sur la comète.
Des plans sur la comète. Et
sur la lune plutôt, sur la lune. Ouais, c'était ma blague qui est mal partie. La fusée a pécoté au départ. Merci beaucoup, Katiou, pour tous ces bons conseils.
Avec plaisir.
Alors, on vous souhaite bon week-end et puis d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2023.
Merci à vous aussi.
Et puis la semaine prochaine, ne manquez pas, ça sera le dernier rendez-vous en direct des jardinières. Ensuite, il vous restera les podcasts sur notre site, si on vous manque trop. Samedi prochain, nous serons en compagnie de Claudine Miseret, permacultrice et cultivatrice de plantes aromatiques et médicinales à Charmoy. D'ici là, on vous souhaite un bon week-end. Bon week-end, Steve.
Oui, bon week-end, Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous. Couvrez-vous bien.
7h, 8h, les jardinières.